retour de Boulevard 102.1.
Dans 4 minutes, il sera 16h. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. L'heure de pointe se complique, Audrey.
Oui, si vous êtes sur la capitale en ce moment, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, c'est déjà très au ralenti, direction Ouest. Ça se passe entre Bourg-Royal et Laurentienne. Henri IV Sud, je vous dirais que de Wilfrid-Amel au pont, c'est déjà compliqué. Si vous êtes sur Duplessis Sud de Charest au pont La Porte, c'est lourd. Des problèmes également sur Charest, direction Est, entre Duplessis et Henri IV. Un peu plus haut dans le nord, Shannon, devant la base militaire, route de la Bravo dans les deux directions, il semble encore y avoir ce ralentissement-là, c'est un classique. Si vous êtes sur route de Fossambeau, à la hauteur de la Jean-Cartier, il y a déjà des ralentissements à prévoir également. Puis sur la rive sud, ça se passe principalement sur la 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles. Si vous êtes sur Guillaume-Couture, quelques ralentissements à prévoir aussi dans le coin de Chemin des Îles. Autre chose, 88-971-102 texto.
Et pleuvent les millions de dollars en ce début de pré-campagne électorale. La nouvelle première ministre, Christine Fréchette, qui va à chaque semaine ou à chaque 2-3 jours de ce qu'on appelle des micro-annonces. On sait qu'elle a un budget discrétionnaire qui va servir à essayer de contenter le plus de monde possible en l'espace de quelques semaines avant la campagne électorale d'automne.
Tu avais ce budget-là, mais tu avais aussi ce qui était déjà dans le budget parce qu'il n'y avait pas de ventilation qui avait été faite dans les annonces du ministre Éric Girard. Tu avais ce que tu mentionnes qui s'en allait à peu importe le chef qui allait prendre la tête avec des engagements qui n'avaient pas été pris auparavant. Mais reste que il y avait de l'argent qui avait été annoncé sans donner les détails là, un peu plus tôt ce printemps.
Mais on savait qu'on allait parler à un moment donné d'itinérance.
Absolument.
Il y avait des enjeux et des besoins qui étaient criants. Et on a fait des annonces aujourd'hui. Mme Fréchette était en ville. Le maire Bruno Marchand était en sa compagnie. Fait que ça n'en prenait pas plus pour qu'il se garoche au point de presse. Mathias Turcotte est de retour en studio avec nous autres. Salut Mathias.
Bonjour.
La grosse gomme était en ville. On a annoncé combien de millions puis qu'est-ce qu'on fait avec?
C'est 28 millions pour contrer l'itinérance sur 3 ans qu'on a annoncé aujourd'hui. En gros, la mesure, ça vise 3 régions de la province de Québec, la Capitale-Nationale, Montréal et l'Outaouais. Notamment, la plus grosse enveloppe du 28 millions, c'est 21 millions pour la création d'un projet pilote de 1000 logements dans le nouveau programme de supplément au loyer en prévention. Puis en prévention, c'est bien important parce qu'on avait déjà le programme de supplément au loyer. L'idée derrière ça, c'est que quelqu'un qui se retrouve à la rue, qui est pris en charge par les différents organismes pour lui donner une chance de retourner dans la vie, ben on l'aide à payer son loyer. Donc, lui paye son loyer à hauteur de 25 % de son revenu.
Okay.
Puis le gouvernement du Québec va payer le reste.
La balance.
Exactement. Mais ça, c'est pour des personnes qui se retrouvent à la rue. Là, ce qu'on fait avec le projet pilote pour ces 1000 logements-là, c'est on va cibler des personnes qui sont à risque de se retrouver dans la rue. Parce que c'est environ 50 % des personnes qui se retrouvent à la rue parce qu'elles ne sont pas en mesure de payer le loyer. Il y a aussi de la santé mentale et tout. Mais il y a une grosse proportion économique. Donc, ce qu'on dit avec ça, c'est les candidatures vont être déposées. Et par la suite, les personnes qui ont plus de difficultés à payer leur loyer vont payer 25 % et on va payer le reste pour une durée jusqu'à 3 ans, justement.
Pourquoi juste 3 régions dans la province de Québec? Parce que c'est un projet pilote.
C'est un projet pilote. Le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, qui était présent, expliquait qu'il fallait qu'il y ait différentes choses qui soient mises en place, notamment qu'il y ait vraiment des organismes avec un réseau complet qui soit établi dans la région pour que cette mesure-là soit efficace puis soit mise en place rapidement. Donc, c'était le cas des 3 régions ciblées, Montréal, Québec et Outaouais. Et bien sûr, c'est aussi dans ces 3 régions-là qu'on retrouve les plus gros problèmes en itinérance, avec notamment des villes comme Québec, Montréal et Gatineau, par exemple. Donc là, le questionnement se pose parce qu'on a 1000 logements. Comment ça va être distribué? Combien Québec va en avoir?
Ouais.
Combien Montréal va en avoir? Combien l'Outaouais? Ce qu'on nous a expliqué, c'est que c'est une enveloppe globale, donc ça va aller à la demande. Puis là, si ça va à la demande, on s'entend que la demande est plus grande à Montréal. Elle s'en vient de plus en plus grande à Québec, mais ça reste que la crise de l'itinérance est pire à Montréal qu'ici. La question a donc été posée à Lionel Carman. Est-ce qu'on doit s'inquiéter que Montréal obtienne la grosse part du gâteau, étant donné que c'est là que la demande est le plus présente? Je vous laisse entendre la réponse de Lionel Carman et Bruno Marchand qui suit. Elle en a étonné plus qu'un.
Moi, je vous dirais le contraire. À voir comment la table d'itinérance fonctionne ici, puis la collaboration avec l'Office d'habitation, c'est ici qu'il risque de partir plus rapidement.
Puis je suis tout à fait d'accord avec Lionel. Il faut nous parler aux gens du CIUSSS, il faut parler aux gens du communautaire. On va s'organiser pour être sur les listes.
Okay.
J'ai confiance, notre monde, il bouge, puis il bouge vite.
OK.
L'annonce est faite à Québec, ouais, tout au long du point de presse, puis même durant la visite auparavant, on a comme fait une petite visite, c'était à Daubrivière l'annonce, donc on a fait une petite visite des installations, et tout le long, on a vanté la façon que l'itinérance était gérée à Québec à travers les différents organismes, la collaboration qui était en place.
Est-ce qu'on voit ça peut-être comme étant le bon milieu pour faire le projet pilote en question, en se disant bien, tout le monde est tellement intégré? Puis tu sais, mine de rien, géographiquement, l'itinérance à Québec est facile à cibler, fait que ça va être plus aisé de voir des résultats, puis tu dis, bien, si on est capable de le voir là, ça va être plus simple de le reproduire ailleurs, je sais pas.
Ben, ça se peut, mais Lionel Carman, du moins, à un moment, a même dit que Québec, en termes d'organisme puis d'organigramme, comment la collaboration est effectuée, que c'était un exemple à prendre pour les autres.
Ils travaillent tellement fort.
Tant mieux, c'est une belle fleur pour tous les organismes, exact, de la région. Puis on va se le dire aussi, celui qui l'a crié le plus fort, les besoins de l'itinérance, c'est le maire Marchand aussi, là, si tu fais le tour de la province.
En fait, c'est lui qui a pris ça comme étant un problème municipal, puis qui en a fait un problème provincial.
En même temps, est-ce qu'on est en train de réparer les ponts de cette relation-là entre la Ville de Québec et le gouvernement de la CAQ qui s'était drôlement effrité dans les dernières années? On sait qu'avec Geneviève Guilbeault, ça marchait pas. On sait qu'avec François Legault, c'était so-so. On sait qu'avec les dirigeants de la CAQ, on était très montréaliste de toutes les façons possibles.
Oui, Québec est une région à prendre.
Exactement.
Il y a beaucoup de ça. C'est pas des ponts qu'on est en train de rétablir.
Non, mais faut rester une région à prendre. Faut rester
la région à prendre.
C'est la seule façon de régler nos problèmes puis d'avoir des annonces.
Ouais.
C'est la seconde où ce qu'on est acquis, il n'y a plus personne qui va s'occuper,
exact,
de nous autres.
Le problème, c'est qu'on fait des annonces, mais on ne les réalise pas par la suite.
On fait des annonces, puis on les désannonce en douce.
Pour les réannoncer à l'élection suivante.
C'est ça.
Il n'y a personne qui fait ça.
Les millions qui ont été annoncés aujourd'hui, c'est-tu assez pour l'itinérance zéro? C'est-tu assez pour dire on va enrayer, mettons, 10 % de l'itinérance. On est-tu capable de dire on va avoir cet effet-là?
Avec cette annonce-là, non. Mais Mme Fréchette a quand même été questionnée sur ses cibles en itinérance parce qu'on sait, Paul Saint-Pierre-Plamondon a annoncé vouloir réduire d'ici 2030 de moitié l'itinérance, donc de passer de 12 000 à 6 000. Ça, c'est selon le dernier comptage qu'on a fait de l'itinérance au Québec. Elle a indiqué de son côté pas être capable de prédire la tendance que l'itinérance allait prendre, mais en même temps, elle s'est donné un objectif de sortir 4 000 personnes de la rue. Je vous laisse entendre.
Là, va aller continuant, grandissant, croissant au cours des prochaines années, où il va rester stable. Ça, ça reste à voir parce qu'on voit qu'il y a plusieurs causes. Hein? Puis la pandémie, on ne l'avait pas prévu. L'inflation non plus. Donc, qu'est-ce qui va survenir les prochaines années qui pourrait avoir un effet positif ou négatif sur l'itinérance? Je ne saurais vous dire, mais nous, on se donne comme objectif donc 4 000 personnes qu'on sort de la rue cette année. En ce moment, on a 12 000 personnes à l'échelle du Québec.
C'est plus prudent que de dire itinérance zéro. On va se le dire, on l'a vécu.
C'est plus prudent. Puis sur le coup, on s'est questionné. Là, parce que si on a beaucoup, 12 000 itinérants puis on en sort 4 000, bon, sans compter ceux qui se rajoutent, on tombe à 8 000.
C'est le tiers qu'on serait capable d'enlever.
C'est énorme. Puis là, j'ai questionné le cabinet de Mme Fréchette. Puis ce qu'on m'a indiqué, puis là, j'attends des documents avec preuve à l'appui, mais c'est qu'en 2024-25, c'est environ 4 000 itinérants qu'on a sortis de la rue.
OK.
J'attends encore des documents, ouais, mais on m'a affirmé du côté du cabinet de Mme Fréchette et par la suite de M. Lionel Carman que c'était 4 000 personnes dans l'année 2024-2025 qu'on a sorti de la rue.
Ce qui est particulier, c'est que le dénombrement de l'itinérance, là, on le fait pas à chaque année. Hein. Il y a comme des espèces de gaps. Puis c'est l'année d'après qu'on a les chiffres. Comment on fait pour avoir des données aussi précises dans les 12 derniers mois?
Je ne sais pas dans quelle région non plus tous ces itinérants-là ont retrouvé des domiciles. Parce qu'à Québec, à l'œil nu, je peux vous confirmer que l'itinérance est encore bien présente.
Non, exactement.
T'sais, on a juste acheté un œil à ce qui se passe sur Saint-Roch et partout autour. Mme Fréchette était en ville, donc il y a d'autres dossiers
bien
qui ont
sûr
été traités. Puis je suis content, tu vas nous parler de l'Autorité des marchés publics qui a ramassé solide la gestion du controversé projet SIFA. Ça, c'est un autre projet où on veut moderniser des systèmes financiers et d'approvisionnement du réseau de la santé. Puis là, je vais faire l'énumération de tout ce qui va mal dans ce projet-là. Il y a plein de petits saclics qui poussent, hein, c'est vraiment le fun.
Ça se reproduit, ces petites cochonneries-là.
Oui! Mauvaise utilisation des fonds publics, absence de vérification adéquate avant la signature du contrat et désengagement des responsabilités. D'importantes lacunes dans la gestion budgétaire et contractuelle du projet, et on dit qu'on n'a pas agi de manière à assurer la bonne gestion des fonds publics. Les coûts de départ du développement du projet, c'était 96,2 millions. Ça, c'était en 2022. On est rendu à 300 millions de dollars. Et en 2024, on a donné un contrat de 408 millions à LGS IBM afin de remplacer 41. Excusez.
Ça vient de prendre au cœur. Hein?
C'est la fièvre des foins. 41 systèmes en fin de vie, puis moderniser les fonctions financières et d'approvisionnement dans la majorité des établissements du réseau.
LGS IBM, il était aussi dans Saclic. Hein?
C'est la même firme qui a travaillé sur Saclic. Quand on a une bonne recette, on l'applique partout. Hein?
On a parlé d'eux il n'y a pas longtemps parce qu'ils refusaient de donner des documents à l'UPAC.
Oui. Ouais. Puis quelques semaines après la signature de l'entente, on a réalisé qu'on n'avait pas les fonds nécessaires pour payer la dite entente. Et au moment où on se parle, c'est un projet qui est suspendu, puis on n'est pas en mesure d'évaluer combien ça va coûter au total tout.
C'est suspendu depuis octobre 2025, puis ça continue de nous coûter 723 000 $ par mois qu'on doit payer à LGS en ce moment en redevance.
Mais voyons.
Je te jure, là, ça n'a pas d'allure. Si on voudrait annuler ce contrat-là, c'est 125 millions qu'on devrait débourser pour annuler le contrat. Ça, c'est de la signature de contrat incroyable.
Mais on a tombé de l'argent. Ouais. On a de l'argent à brûler, c'est incroyable.
Mais il ne faut pas se demander pourquoi on dit que le ministère n'a pas agi de façon adéquate dans la gestion des fonds publics dans ce dossier-là. Puis, on s'entend avec tout ce que Denis vient d'énumérer, on s'entend avoir une première ministre forte qui dit que c'est inacceptable, que ça n'a pas de bon sens. Fanny Lévesque de La Presse a appelé Mme Fréchette à réagir. Je vous laisse entendre leur échange.
Avec le ministère concerné pour voir.
Désolé, je vais repartir ça comme faux. Là.
On va aller discuter avec le ministère concerné pour voir quelles mesures ont été prises et puis ce qui a fait défaut devra être identifié et puis on devra faire nous assurer pour la suite des choses que ça va dans le droit chemin.
Est-ce que vous aviez eu des signaux d'alarme sur SIFA?
Sur SIFA, non.
Puis est-ce que vous allez demander, par exemple, des comptes à M. Dubé ou les gens qui étaient en place, M. Bélanger, à ce moment-là?
Comme je vous disais, je vais prendre connaissance du rapport dans un premier temps, puis on pourra avoir la direction à prendre.
Puis ces constats-là, c'est choquant, à votre avis?
Bien, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, ça c'est certain.
Hey, vader rétro François Legault, hein? On a l'impression d'entendre des phrases qu'on a déjà entendues pour d'autres dossiers qui nous ont pété dans la face.
Ça manque un peu de torque.
Ça manque de torque, mais pourquoi tu penses que ça manque de torque? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans la merde. Ils savent qu'ils sont dans la marde solide et que ça va être dur à justifier.
Il y a peut-être d'autres petits bébés de ces projets-là qui restent à découvrir. Là.
De quoi on a parlé d'autre à part ça?
On a parlé, bien sûr, du cas Sona Lakoyan-Olivier, la députée de Chaumes-Dés. Parce qu'elle, en fait, était au Parti libéral du Québec. Puis, tu sais, toute la saga de controverses, d'utilisation des fonds publics à des fins partisanes. Mais là, il y a le rapport du commissaire à l'éthique qui a été déposé aujourd'hui, comme quoi cette députée-là a utilisé des fonds publics à des fins partisanes.
Bon.
Puis là, elle a été suspendue du caucus libéral, cette députée-là.
C'était pour Pablo, ça?
Oui. Elle était déjà suspendue. Puis d'ailleurs, le Parti libéral a confirmé qu'elle restait suspendue et qu'elle ne se représenterait pas dans Chaumes-Dés pour le Parti libéral lors de la prochaine élection.
J'ose imaginer. Le commissaire a même précisé que le bureau de la circonscription était devenu en quelque sorte quartier général des activités partisanes de la campagne de M. Rodriguez. puis encore une fois, on s'entend avec tout ça. On veut une première ministre avec un peu de mordant sur ce type de dossier-là. Marc-André Gagnon du Journal de Québec a questionné Mme Fréchette à ce sujet. Je vous laisse entendre leur échange.
Est-ce qu'elle est encore digne de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, selon vous?
Écoutez, je vais prendre connaissance plus en détail du rapport, mais à mon sens, c'est au chef du Parti libéral de décider si la députée...
Mais elle est indépendante, vous savez.
Oui, mais...
Pourquoi ce serait monsieur...
Ben parce qu'elle a été exclue du caucus libéral. Moi, je ne me vois pas en autorité de décider si cette personne peut continuer à siéger ou pas.
Mauvaise journée au bureau.
Mais voyons.
Je suis comme déçue.
Ben voyons donc. Je vais vérifier ce que je peux faire. Je vais voir si en mon autorité de première ministre, je suis en mesure de simplement lui demander sa démission. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans la législation, mais c'est certain que quelqu'un pour qui il y a un rapport comme celui-là qui est déposé ne mérite plus de représenter les Québécois et les Québécoises du secteur de Chemin-Dé. Est-ce une bonne première ministre?
Bien, t'es pas mal meilleur que l'autre, là. Mais en même temps, est-ce qu'on doit se surprendre que des gens qui partageaient le quotidien de François Legault soient eux autres aussi des mollassons
et
des mollassonnes? Mais non, mais c'est parce qu'ils étaient là, là. Ils sont pas arrivés, ils sont pas sortis du champ de fraises comme par magie quand François Legault est parti, là.
Quand t'as un mollasson dans une équipe de travail, ça veut pas dire que tout le monde devient mollasson. Ben, c'est pas quand tu s'en vas le mollasson, tout le monde est capable d'avancer plus.
C'est la technique, c'est juste la technique politique, là.
Tu te pelletages par en avant parce que tu sais pas quoi dire.
Mais pour ce cas-là, pour vrai, la ligne de com est facile pour n'importe quel parti. Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une sortie tantôt en dénonçant la situation, on aurait dit qu'elle n'a pas été briefée avant le point de presse. C'était comme une surprise.
C'est de ça que ça a l'air, puis c'est quand même des dossiers de base. Puis moi, quand j'ai vu les sujets qu'on allait parler ensemble, Mathias, aujourd'hui, j'étais pas surpris. Je veux dire, tu devines un peu quelles questions vont être posées à la première ministre. On est dans les médias, on travaille là-dedans tous les jours. Si moi, ici, j'ai été capable de présumer c'est quoi les questions qu'on allait poser à la première ministre...
5 personnes aient besoin de te briefer.
Je pense que la première ministre est capable de se préparer des réponses pour ces questions-là.
Mais son équipe, sinon.
Elle a de l'air complètement dépassée.
Un peu plus, puis elle demandait c'était qui, Sonia Lacoyenne-Olivier.
C'est pas comme si on l'avait pogné d'un coin, mettons, d'un débat. Tu sors une affaire, une statistique que personne n'a vu venir. C'est les dossiers du jour.
Et elle essaie de cacher des affaires. C'est noir sur blanc d'un rapport. On lui demande 8 000 $ pour ça. Son parti veut même plus avoir en peinture.
Ben, peut-être qu'elle vient d'apprendre que l'antonovirus a commencé à se répandre. Là, je sais pas, là.
C'est niaiseux, mais moi, le petit manque de crédibilité vient surtout du fait qu'elle a oublié qu'elle était indépendante, là.
C'est terrible.
Ouais, c'est un très bon point.
Quand Marc-André Gagnon le ramène, hein, t'entends sa tête, t'entends « Ah, fuck! »
Ouais, c'est...
Elle
avait l'air d'une fille qui voulait pas répondre à des questions puis qui avait très, très hâte de s'en aller puis elle voulait pas se mouiller sur aucun sujet. Là. C'est spécial.
Ouf.
Mais je me suis... Parce qu'il y a plusieurs fois qu'on nous interdit de poser des questions sur un autre sujet que le sujet du jour.
Ouais.
Je me suis posé la question pourquoi on l'a pas
tu
fait.
Tu viens d'avoir la réponse pourquoi on fait ça d'habitude.
Pourquoi on l'a pas fait? Avoir ces réponses-là, honnêtement.
Fait que dans le fond, toi, t'es allé voir la première ministre puis t'as été déçu du show. La dernière fois que c'est arrivé autour de la table, c'est quand Audrey est allée voir Taylor Momsen.
C'est vrai.
Hey, merci Mathias.
Ça fait plaisir.
Pour rejoindre notre journaliste Mathias Turcotte, citoyen à blvd.fm.
Gravel. Dans le retour, que la vérité surgira et que l'humeur règnera sur les médisances et futiles colères. Gravel dans le retour. Entre spectacle et gros bon sens.
16h21, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Deux alertes météo toujours en vigueur au moment où on se parle. La première... C'est pour les prochaines heures, quoi qu'on ait un petit coup de grêle qui est passé tout à l'heure sur la région de Québec. Il y a quand même une veille d'orage qui est toujours en cours. Et on parle de petits grêlons là, qui ne feront pas de dommages, mais soyez aux aguets. Le deuxième avertissement concerne la nuit de ce soir. Il y a encore des risques de gel au sol. Même chose pour demain. En matinée, on a 8 degrés présentement à Québec. Les averses qui auront lieu ce soir vont se terminer tôt. Ça se dégage pour la suite. Il y a encore des risques d'orage, rappelons-le. Minimum de moins 1 gel par endroit. Demain, alternance soleil-nuages. 60% les chances de pluie tard en matinée. Et en après-midi, encore une fois, des risques d'orage. Maximum 12 degrés. On garde notre journée ensoleillée pour samedi. On ajoute même quelques degrés au maximum prévu. Soleil, 16 degrés. Et dimanche, nuageux. 60% les probabilités d'averse. Et un maximum de 16 degrés sur les routes. Audrey, en plein cœur de l'heure de pointe.
Si vous êtes sur la capitale, direction est en ce moment, entre Henri IV et Laurentienne, ça bouge pas. Direction ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne, surtout que ça se passe. Robert Bourassa, direction nord, c'est entre Charest et Wilfrid Hamel. Si vous êtes sur Henri IV Sud, de Wilfrid Hamel au pont, il y a encore ce ralentissement-là qui ne bouge pas. Si vous êtes sur Duplessis, direction sud, ça se passe de Charest au pont La Porte. D'ailleurs, parlant de Charest, direction est, entre Duplessis et Henri IV, c'est super difficile en ce moment. Henri IV Nord, dans le coin de la capitale, il y a un ralentissement inhabituel. Un peu plus haut, dans le coin de Val-Bélair, devant l'avenue industrielle, c'est au ralenti également. Et devant la base militaire, route de la Bravoure, dans les deux directions. Route de Fossambeau, ça se passe entre Désérable et de la Jacques-Cartier. Ça s'en va sur la rive sud, 20 directions ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata. C'est loin d'être terminé. Il y a des problèmes également sur Guillaume Couture, entre, je vous dirais, la route du président Kennedy et Chemin des Îles. Évidemment, il y a autre chose. 88-971-1021, texto.
Judith Demel, journaliste judiciaire du Soleil, sera avec nous autres dans les prochaines minutes. En fait, elle est en studio déjà, mais on va faire le tour de l'interminable procès et des interminables procédures dans le dossier de Dominique Laroche, pauvre victime. On s'en reparle dans quelques minutes.
Oui,
mais,
il y avait des observations sur la peine, puis il y a une autre. On veut déposer une preuve, donc rouvrir quelque chose. Là. Judith va tout pouvoir nous expliquer ça.
Mais d'abord, regardons l'essentiel des autres nouvelles dans l'actualité en ce jeudi 7 mai.
On a quand même fait un bon tour avec notre journaliste Mathias Turcotte. L'annonce de 28 millions pour contrer l'itinérance dans trois villes du Québec, incluant la capitale nationale. On a aussi abordé par le fait même le rapport de la commissaire à l'éthique et la déontologie qui blâme l'ancienne députée libérale Sona Lacoyanne-Olivier d'avoir utilisé des fonds publics à des fins partisanes, mais aussi d'avoir entravé l'enquête de la commissaire à l'éthique. Mais toujours en politique, il y a le fameux redécoupage qui avait bien fait jaser, alors qu'il y a une commission qui, aux deux élections, suggère voici comment on devrait réinterpréter les différents comtés qui faisaient qu'on avait la disparition des comtés du côté de Gaspé et d'Anjou-Louis-Riel. On devait fusionner tout ça. Là, ce qu'on a décidé de faire à l'Assemblée nationale, c'est que tous les partis, sauf le Parti conservateur, ont accepté de faire passer pour la prochaine élection générale le nombre de comtés de 125 à 127. Ça veut dire que les deux nouveaux qui devaient être créés le seront aussi, puis que les deux qui devaient être fusionnés demeureront présents. Parlons antivirus. C'est ce fameux virus qui se retrouve sur une croisière qui ne peut accoster nulle part.
Une croisière qui ne s'amuse plus.
Je pense que ça fait un bout de... Ça fait au moins une semaine qu'il ne s'amuse plus. C'est la croisière qui est partie d'Argentine en se rendant de l'autre côté. Et des gens qui sont décédés, on est rendu à 3 décès. On est rendu à plusieurs personnes qui ont le virus en question. L'antivirus, c'est un virus qui habituellement se transmet par les airs suite à une poussière qui peut contenir urine, excréments, salive de petits rongeurs sauvages, puis il n'y a rien pour traiter ça. Dans 30 à 40 % des cas, ça peut être mortel parce que tu te retrouves avec des problèmes respiratoires, des problèmes rénaux, une fièvre qui peut te causer une hémorragie interne. C'est quelque chose de super le fun. Et on a appris aujourd'hui qu'il y avait 3 Canadiens qui étaient sous surveillance. 2 qui se trouvaient à bord du navire, mais le navire, il avait fait des escales, dont un sur l'île Sainte-Hélène où il y a du monde qui sont partis avant qu'on sache qu'il y avait ce virus-là à bord, avant les décès et la confirmation, si on veut. Et qu'on a aussi un Québécois qui est sous surveillance. Lui, il a pris un avion avec quelqu'un qui est un cas, finalement, sur un de ces avions-là. On nous dit qu'ils sont bien surveillés, qu'ils sont en quarantaine, qu'il y a des vérifications qui sont faites, mais je le sais, on est tous choc post-traumatique de ce qui s'est passé en 2020. Puis il y a aussi c'est le Daily Mail qui pense avoir trouvé l'origine du fameux antivirus. Et non, ça ne semble pas être une souris qui se promène sur le navire en question. Les deux premiers qui sont décédés, qui étaient un couple des Pays-Bas, auraient visité un dépotoir en Argentine pour aller prendre des photos d'oiseaux avant d'embarquer sur l'avion, sur le bateau, pardon, ce qui a fait qu'il a probablement contracté ça. Les symptômes se sont développés. L'homme, lui, est mort sur le bateau. La femme, elle avait été transférée dans un hôpital où elle est décédée. Fait qu'il serait les patients zéro de tout ce qui se trame sur ce dit bateau qui, là, actuellement, est en route vers les îles Canaries où on devrait sortir les gens du bateau et les rapatrier de chacun dans leur pays, où ils devront bien sûr être sous surveillance. Sinon, dans les autres nouvelles aujourd'hui, peut-être terminer avec ça, des bonnes nouvelles pour l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. On avait réussi à établir un record en 2019 de nombre de passagers qui s'établissait à 1,78 million et on a réussi à dépasser ce chiffre-là au courant de la dernière année. T'sais, c'était un record pré-pandémique, puis vous savez comme moi que ça a été long avant qu'on reprenne le beat. Donc, on a dépassé le 1,8 million. Par contre, reste à voir comment ça va se dérouler au courant des prochains mois avec le coût du kérosène. Je vois encore Air Canada qui a décidé de mettre fin à certaines liaisons vers les États-Unis, soit celle à Vancouver vers Raleigh, Toronto à Sacramento, Toronto à Charleston et Montréal à Austin. Est-ce qu'on s'enligne vers un été de staycation, Denis?
Je pense que oui.
Tu sais, je voyais, c'est un soleil qui calculait combien ça coûtait se rendre, mettons, à Tadoussac si tu voulais partir en vacances.
Ah oui.
Je pensais à toutes ces familles qui s'étaient équipées pour partir en campeur parce que, ouais, voyager, ça va être le fun comme ça, qui vont peut-être devoir réviser leur plan.
Tu sais, je vous parle régulièrement de Moreau PRS, qui a les produits Sunspace, ouais. Sunrooms pour faire des solariums puis des affaires comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment l'année où, si on a un petit peu d'argent à investir, ça va être sur le terrain, ça va être sur une piscine, un spa.
Le nouveau barbecue.
Se rajouter un petit espace de vie supplémentaire. Du plus-value, peut-être à un moment donné pour vendre la maison, mais avant, ça va être d'en profiter parce qu'on ne bougera pas.
Sauf le char électrique, là. Il y a eu des grosses hausses de vente de voitures électriques au courant des derniers mois.
Exact.
Je pense qu'on était tanné d'être un peu à la merci du prix de l'essence.
Si vous voulez nous traîner partout avec vous autres, ben vous avez le droit avec l'application Boulevard qui est téléchargeable, qui est gratuite. En deux clics, vous nous suivez en direct et vous faites du rattrapage de tout ce que vous avez manqué dans la journée, des entrevues, des segments comme le Pit Stop, le Caucus avec Antonin Iaccarini et ainsi de suite. Il y a la web radio sur notre site blvd.fm et je vous rappelle qu'on a notre chaîne YouTube où on a tout ça, les extraits d'entrevues et ainsi de suite, mais on a aussi les podcasts qui sont disponibles en format visuel. J'ai fait mes vérifications ce matin sur les services de streaming. Les plus récents podcasts des grands événements sont là, dont celui qu'on vous a présenté cette semaine sur la guerre des motards, les Hells Angels, les Rock Machines, avec l'ex-enquêteur Roger Ferland sur Spotify et sur les autres services de streaming. Courte pause, on revient avec Judith pour parler du cas lourd de Dominique Laroche.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour.
À Boulevard 102.1, alors qu'on a quelques percées de soleil qui n'étaient pas nécessairement au programme. On va les prendre. Il y a des risques d'orage encore pour ce soir et également pour demain après-midi. Avant que le soleil ne s'installe samedi, mur à mur, avec un maximum de 16 degrés. Mathias, sur les routes?
Oui, il y a de ça. Quelques minutes, on avait un incident sur Robert Bourassa. En fait, c'est une panne, la voie droite qui était partiellement entravée à hauteur de rue Cyril-Duquette. Juste vous dire, ça, c'est réglé. Par contre, sur les routes, c'est pas nécessairement facile. On est en plein milieu de l'heure de pointe. 40 direction est, c'est entre Pierre-Bertrand, ça remonte jusqu'à Henri IV, présentement, le ralentissement. En direction ouest, c'est présentement entre Laurentienne et ça remonte un peu après Henri Bourassa. Par la fait même, Robert Bourassa, direction nord pour entrer sur Capitale, un peu difficile. Même chose pour Laurentienne en direction sud. Si on se transporte l'arrêt au pont, l'accès au pont Pierre-Laporte, en fait, Henri IV en direction sud, ça remonte passé Charest en ce moment. Même chose pour Duplessis, c'est à niveau de la 40 présentement. Robert Bourassa, direction sud pour prendre Boulevard Laurier. Ralentissement à prévoir parce que Boulevard Laurier, c'est une voie de chaque côté, donc vis-à-vis du centre d'achat, c'est difficile dans le secteur également. Et je terminerai avec Charest en direction est. C'est difficile, je dirais, à partir de Saint-Sacrement. Puis ça remonte un peu après Charest. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Judith Demeul est journaliste judiciaire au journal Le Soleil. Allô, Judith.
Allô.
Comment ça se fait que c'est long de même, le procès de Dominique Laroche?
Les procédures, oui.
Bien, aujourd'hui, c'était supposément la dernière étape, là, où on fait entendre à la juge nos suggestions de peine, parce que Dominique Laroche a été reconnu coupable de contacts sexuels et autres infractions sexuelles. Et là, du côté de la défense, à la place de se lancer dans ces procédures-là, on a annoncé le dépôt d'une requête. Donc, la juge doit mettre sur pause les observations sur la peine et entendre la requête qui pourrait, selon la défense, changer le cours des choses.
C'est quoi cette requête-là?
C'est une requête en réouverture d'enquête.
Ah oh, ouais.
Après verdict. C'est plutôt rare. On voit des fois des réouvertures d'enquête après le procès, mais là, le verdict est rendu depuis déjà très longtemps, là, plusieurs mois, et on veut retourner jouer dans la preuve pour présenter une preuve nouvelle. Et selon la défense, ça touche la crédibilité de la plaignante, puis ça pourrait changer le verdict.
J'ai besoin que tu me démêles. Lui, bon, il a été arrêté, ça fait presque 5 ans.
2021.
Je ne me trompe pas. Là, il a changé d'avocat. À plusieurs reprises. Sa dernière avocate, elle essayait pas d'avoir un autre procès pour lui ou quelque chose du genre en plus de ça?
Elle a porté le verdict en appel. Le verdict est en appel.
Est en appel au moment où on se parle.
Oui, puis dans le fond, puis justement, dans ce qu'elle a annoncé, dans la requête en réouverture d'enquête, Maître Vivas Rodriguez, la nouvelle avocate de Denis Laroche, va peut-être demander à faire entendre l'ancienne avocate de Denis Laroche, qui était Maître Charles Levasseur. Puis dans ce temps-là, il faut qu'on lève le secret professionnel que Maître Levasseur doit toujours respecter envers Denis Laroche pour qu'il vienne s'expliquer par rapport à justement ces nouveaux éléments-là dont on ignore la nature pour l'instant, qui pourraient changer certaines choses.
On a-tu une idée de ce que ça peut être concrètement? C'est-tu des extraits de conversation? C'est-tu...
Non.
Non,
Je peux juste supposer, mais non, on ne le sait pas. Puis on va, dans le fond, elle a 2 semaines pour écrire la requête écrite en détaillé puis la présenter à la juge.
Est-ce que ça s'inscrit, d'après toi, dans une longue série de stratégies pour étirer les procédures et le procès au maximum de l'élastique parce que M. Laroche semble apprécier le spotlight?
Je peux pas dire si c'est sa stratégie, mais décidément, oui, ça étire les procédures et ça retarde la fin de tout ça. Lui, mais surtout pour la victime et tout le monde impliqué.
Je vais passer un commentaire, tu seras pas obligé de réagir, mais je trouve que c'est une stratégie très particulière de se comporter en trou de cul dans un procès où tu te défends de pas être un trou de cul.
Lui, est-ce qu'il est incarcéré au moment où on se parle?
Oui, il est détenu. Il était détenu aujourd'hui. Il est détenu depuis, depuis le verdict. On avait demandé son incarcération immédiate, oui, étant donné la gravité des gestes qu'il avait commis et il était trouvé coupable de ces gestes-là.
Malgré les sparages de Dominique Laroche, la victime a pu présenter et lire un texte aujourd'hui?
Parce qu'aujourd'hui, bon, comme je disais, on devait finir tout ça, puis on devait plaider et tout, mais la victime, ça fait 3 fois qu'elle se présente au palais de justice, prête à lire sa déclaration.
Parce que c'est elle qui la lit, puisque tu nous as déjà raconté, ouais, que...
On peut la lire à leur place, ouais, mais elles peuvent le lire si elles ont la force et le courage nécessaire, et elle l'avait.
Puis, c'est vrai, à un moment donné, il disait que c'est la météo qui l'avait empêché de se présenter. Ben, si, c'est vrai, ça, il y a eu des reports. Là.
Ça fait 3 fois qu'elle se présente au palais avec toute sa famille, prête à lire la déclaration qu'elle a écrite, qu'elle a travaillée, et elle pense à ce moment-là depuis très longtemps. Pour elle, c'est la dernière fois qu'elle s'adresse au tribunal. Et ça fait 3 fois, dernière minute, qu'on lui dit non, désolé, ça se passera pas aujourd'hui. Fait que là, aujourd'hui, Maître Michel Bérubé, pour la poursuite, a dit « J'aimerais tout de même qu'on commence, qu'on fasse entendre la victime dans ce dossier-là, qu'elle témoigne pour qu'elle puisse tourner la page. Puis nous, on va régler la requête, puis ensuite, on va poursuivre les plaidoiries pour la peine. »
Donc, ça a été accepté, ça?
Ça a été accepté. Donc, elle a été libérée.
Comment elle a réagi quand le clan Laroche est arrivé avec une autre requête, puis...
Je pense que ça fait tellement long... Elle se fait faire le coup tellement de fois qu'elle s'attend plus à ce que ça se passe rondement.
T'as un chiffre dans ton texte que je pense que t'as pas mentionné en ondes. Le nombre de fois où,
ouais,
le procès a été au rôle.
Oui, c'est des apparitions au rôle qu'on, ouais, appelle 52, ouais, fois.
52!
Puis la victime m'a pas manqué une audience.
En temps normal, le procès, ça peut avoir l'air de combien de fois au rôle?
Mon Dieu.
Ça dépend.
Moins de 50.
Bon, ça,
oui, si on l'avait compris.
Ça ne,
oui,
pas être tant que ça. Tu
sais, lui, Dominique Laroche avait présenté des requêtes au début des procédures. Donc, il y a eu les requêtes. Il y a eu de procès. Là, le procès a été annulé parce qu'on a changé d'avocat. Donc, il y a eu des nouvelles dates de procès. Il y a des nouvelles requêtes. Il y a des appels. Je pense que lui a accumulé beaucoup de procédures. Là.
Et pour passer un certain nombre, il faudrait qu'on arrête. Là.
J'aimerais ajouter que c'est pour un dossier qui n'est pas si compliqué dans la mesure où, ouais, on n'a qu'une plaignante. Ouais. On a, tu sais, c'est pas comme s'il y avait... Tu sais, il y en a des dossiers qui sont très longs parce qu'il, ouais, y a 10 victimes, il y a 15 témoins, mm-hmm, puis c'est des choses de plus grande envergure. Là, dans ce dossier-ci, c'était pas si compliqué.
Tu sais, les cas de plaideurs quérulents, puis on en a discuté ensemble, ouais, à un moment donné quand il y en a eu au palais de justice. Y a-tu quelque chose qui peut s'appliquer à quelqu'un qui multiplie...
Qui ralentit le groupe.
Ouais, c'est ça, exact. Surtout quand c'est quelqu'un qui est reconnu coupable, là, en bout de ligne.
Je te laisse tous les mots auxquels tu peux penser.
Ah, il y en a plein. Ouais.
Ils valent autant que les miens.
Mais il n'y a pas de procédures judiciaires supplémentaires qui peuvent dire, regarde, là, c'est vrai que tu retardes le groupe, on va t'accuser de telle chose ou d'avoir retardé le match, là, comme au hockey, mettons. Là.
Un accusé a droit à une défense pleine et entière. Oh, et boy, cette phrase-là, a souvent le dos large.
Donc, la victime a lu son témoignage.
Je vous en ai déjà parlé. Moi, les observations sur sentence, surtout quand les victimes parlent devant la juge, c'est moi ce que je trouve le plus difficile à être témoin de ça. C'est tout le temps lourd en émotions. C'est aussi là où tu réalises les véritables conséquences.
Les dommages. Hein, ouais.
Les dommages qui ont été faits par ces crimes-là et à quel point ça peut détruire une vie avec des aspects qu'on ne s'y attend pas parce que nous, on n'a pas vécu ça.
Parce que dans le fond, le procès, ça va être du factuel le plus Exactement. Possible. Tandis que là, de dire « Hey, voici le bagage que je porte depuis ça », c'est le moment de le faire. Là.
Au procès, on le voit quand les victimes sont accablées par ça, qui sont touchées, qui sont brisées. On peut le voir, mais là, elles nous le disent dans leurs mots. Et je pourrais vous expliquer ce que la victime est venue raconter aujourd'hui, mais elle avait tellement des mots justes, propres à elle, que j'avais peut-être envie de vous lire certains passages de sa déclaration.
Absolument, mais juste avant, j'aimerais qu'on réponde à la question d'un auditeur. Judith, est-ce que pendant l'attente, son temps compte en double en prison présentement?
C'est
à
temps et demi. Quand
Donc,
c'est provisoire.
Ça peut devenir une stratégie d'étirer les
non,
procédures?
Parce non, parce que la peine est donnée en fonction de ça. On prend en considération le temps provisoire fait, puis on le déduit. Donc, non, c'est
Donc,
pas
Donc, quelqu'un
ne
peut pas faire le calcul mathématique de dire « je vais passer le plus de temps possible avant pour faire le moins de temps possible après ».
Exact.
OK, parfait.
Je sais que ça a l'air compliqué parce que c'est un calcul plutôt complexe, mais c'est pas censé affecter la sentence.
Comment Dominique Laroche réagit, lui, pendant le témoignage de la victime?
Il a pas bronché.
Il a pas bronché?
Aucune réaction. Il a juste demandé d'avoir les appareils pour mieux entendre parce qu'il y a des problèmes d'audition.
OK.
Donc, je vais vous lire certains passages. Là, c'est pas dans l'entièreté, c'est quelques phrases que j'ai gardées. Puis, ben c'est ça, c'est elle qui parle. Là. C'est, c'est pas moi, évidemment. Puis vous allez voir, dans le fond, elle s'adresse à la juge, puis elle prononce pas le nom de Dominique Laroche... dans sa déclaration. La première chose, peut-être la plus cruelle qui me vient en tête quand je repense à cette époque-là de ma vie, c'est que je vivais à tous les instants sous un poids étouffant, dans une atmosphère d'angoisse terrible. Je cachais en permanence un immense secret, enfoui en moi comme un fruit pourri. Un secret si gros et si sale, finalement si incompréhensible que je n'étais pas tout à fait certaine de ce qu'il représentait vraiment. J'étais prisonnière. Je me souviens à quel point ma solitude était profonde. Je me sentais perdue, complètement isolée. Je ne pouvais rien dire à personne. J'en parlais à certaines amies, mais je sentais l'immense décalage entre ma vie et la leur, tandis que certaines d'entre elles vivaient à cette époque-là de belles histoires simples, les premières expériences innocentes que font les jeunes filles avec les jeunes garçons. Mes histoires à moi étaient irracontables. Mon corps de jeune fille a durement encaissé ces années, mais les blessures les plus profondes, les plus douloureuses ont été psychologiques. Mes pensées, mes émotions ont été volées, puis polluées par les fantasmes dérangés d'un esprit malade. Aujourd'hui encore, elles restent marquées au fer rouge. Pendant des années, l'homme que vous avez condamné m'a fait croire que je choisissais librement de me soumettre à ses jeux sexuels, alors qu'en réalité, il m'a traitée comme son objet, sans ménagement ni retenue, sans la moindre précaution pour mon innocence, pour ma fragilité. Cet homme m'a causé un tort irréparable et qui me suivra toute ma vie.
Ouf! Hey, c'est tough en calvasse.
C'est à ça que ça ressemble.
Ouais.
Une audience quand une victime vient parler de ce qu'elle a vécu.
Elle a-tu été capable de se rendre au bout de son texte? Elle a-tu besoin de prendre des pauses?
Elle a pleuré un peu. Je pense que sa voix a cassé. Surtout quand elle parle du fait que... Elle se sent très honteuse du fait qu'elle aimait être valorisée par cet homme-là au bout du compte. Puis elle sait que c'est contradictoire aujourd'hui. Ouais. Mais ça a été dur pour elle de le comprendre. Donc, quand elle vient à parler de cet amour qu'elle lui portait malgré tout, en dépit de tout, c'est là qu'elle a cassé parce qu'aujourd'hui, elle peut pas croire que c'est ça qui se passait. Mais quand t'es une enfant...
Puis c'était une enfant, avec quoi,
13 ans.
J'avais 13 ans, Madame la juge, lorsque l'homme que vous avez condamné m'a touchée pour la première fois. Lui en avait 47. Ouais. Puis elle dit, ça l'a détruit mes repères, ça l'a brisé mon rapport à la sexualité, à l'amour, et ça lui a fait skipper des étapes qui auraient dû être vécues dans l'ordre. Puis c'est les séquelles qu'elle garde aujourd'hui. puis elle a très bien exprimé le caractère insidieux qu'un tel crime peut avoir sur une enfant aujourd'hui devenue adulte.
Judith, quoi qu'il arrive dans la suite des choses, elle, sa portion est terminée?
Elle a terminé.
OK.
Elle n'est pas censée se réadresser à la cour. Comme je te dis, là, la requête, la vise, là, parce que... Puis après qu'elle ait lu ça, là, vous l'avez vu, là, l'intensité de son mot.
Ouais.
Tout de suite après, l'avocate a parlé en disant que la requête, ça l'attaquait sa crédibilité à elle. C'est un petit peu...
C'est surréel. Hein?
Ouais, ouais.
On vient tout d'entendre ça, puis il n'y a personne qui est indifférent à ce qu'elle vient de nous lire. Tout le monde est un petit peu dans l'émotion.
C'est quand même très lourd émotivement.
C'est vraiment, c'est lourd, puis...
Et c'est capoté d'avocat de la défense. Hein?
Puis elle a dit que ça pouvait attaquer sa crédibilité et qu'elle n'a pas exclu l'idée de la faire retourner, s'expliquer pour témoigner dans le cadre de cette requête-là. La requête n'est pas acceptée encore, on n'est pas rendu là, mais c'est des possibilités.
Mon Dieu, qu'on ne fait pas attention à nos gens vulnérables, qu'on ne fait pas attention aux victimes. Puis je me souviens plus dans quel contexte on a parlé de ça, mais tu sais, des femmes ou des victimes qui, à un moment donné, ont porté plainte puis ont regretté de l'avoir fait.
Ouais, ouais. Puis ça donne l'impression que la justice permet encore à Dominique Laroche d'avoir une certaine emprise sur sa victime.
Exact. Exactement. Ah, oh, t'as tellement raison.
C'est long pour l'instant, puis on attend le bout, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont impatientes d'avoir la conclusion et d'avoir la peine que la juge Marie-Claude Gilbert doit rendre. Et peut-être que tous ces éléments-là vont s'y trouver, puis elle va les prendre en considération.
Est-ce que ça va être débattu devant audience? Est-ce que tu vas être là ou c'est fait dans le bureau? Ça, comment
la
ça
requête,
marche? Là?
Ouais, non, la requête, c'est public. Okay. Ça va être en audience.
Puis c'est quand?
Ça revient au début du mois de juin pour faire le point sur justement si plaidoirie il y a et combien de temps
ils vont se faire entendre.
Hein? Oui. Puis la juge va pouvoir consulter la requête, la poursuite aussi, qui ignore pour l'instant c'est quoi. Et on va pouvoir se positionner à ce moment-là.
J'ai bien hâte de voir tout ça, parce que je comprends bien le principe de défense pleine et entière. Mais à un certain moment, on ne parle plus de défense,
c'est de l'acharnement.
On parle d'acharnement.
Ouais,
c'est plus de la défense.
Ça va être une 53e apparition au rôle.
Tout à fait. On va sûrement se rendre à 60.
Et là, c'est quoi? C'est dans une semaine, t'as dit? Il y a le temps de changer d'avocate.
Bien, là, ça ne serait pas à son avantage de changer d'avocate. Là, c'est elle qui écrit la requête.
Oui, mais on n'est pas à une surprise décevante et choquante près.
J'aimerais ajouter, je ne peux croire que j'ai oublié à travers tout ça. L'avocat de la défense est arrivé en retard ce matin en disant que je pense qu'elle arrivait à Québec à
9h50. Parce que c'est l'avocate à Montréal.
L'avocate à Montréal, la cour commence à 9h30. Donc, il y a eu plusieurs suspensions. Puis, je pense que la victime a su qu'elle pouvait lire sa lettre là, seulement à 10h30.
Oh, c'était...
Ça n'a pas de bon sens.
Non, elle va l'avoir vécu vraiment difficilement. Et je pense qu'elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Elle ne semble pas regretter sa décision, mais c'est sûr que c'est difficile. Puis... Puis comme tu dis, c'est ça le danger, c'est d'enlever le goût à d'autres victimes.
Oui.
Elle est excessivement forte.
Judith, merci infiniment. Puis tu vas continuer de suivre ça pour nous autres. Puis merci d'avoir lu les extraits de témoignages.
Ouais,
je pense que ça pèse très lourd là, dans la balance des gens qui écoutent ça puis qui essayent de se faire une tête. Judith Demel, qui est journaliste judiciaire au Soleil. Le texte est en une présentement du site lesoleil.com. On fait une courte pause. Nous autres, on revient. C'est Gravel dans le retour à Boulevard 102.1. Gravel.